Le droit et nous, dans le plus de la grande matinale, avec Aliutal sur Africa Radio.
Le droit et nous, en ce mercredi 6 novembre, on va parler de l'excision, pratique criminelle ou coutume légitime. L'excision est pratiquée depuis longtemps dans plusieurs pays où elle est admise comme une pratique coutumière légitime. Des millions de femmes sont excisées dans le monde, dans des pays où la pratique est considérée comme normale. Mais dans les pays occidentaux qui ne pratiquent pas l'excision, elle est considérée comme une grave atteinte à l'intégrité et aux droits de la femme. Elle est parfois sévèrement sanctionnée, comme en France. Les mutilations génitales féminines doivent-elles être tolérées comme des pratiques coutumières légitimes ou au contraire être sanctionnées comme des pratiques criminelles ? C'est la délicate question que nous abordons aujourd'hui dans Le Droit et nous, en compagnie d'Aliou Tal. Bonjour Aliou.
Bonjour Phil.
Alors, première question pour commencer, en quoi consiste l'excision ? Pourquoi et dans quel pays est-elle pratiquée ?
Là, c'est la question numéro 1, mais je vais poser une question numéro 0 à Phil et aux éditeurs.
Question numéro 0 pour moi.
Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut traiter, appréhender de la même manière l'excision et la circoncision?
Non.
Réfléchissez aux auditeurs, parce que effectivement, c'est une ablation, une forme d'ablation de l'organe sexuel de l'homme et de la femme. Mmh. Est-ce qu'on doit les traiter, les sanctionner éventuellement de la même manière? D'où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la question est très délicate. Il ne s'agit pas là de dire on a raison, on a tort, on peut avoir son point de vue. Mmh. Mais comment c'est appréhendé au niveau international? Comment c'est appréhendé dans les pays qui pratiquent cette forme de mutilation génitale sexuelle féminine? C'est la question que nous allons aborder d'une part, et d'autre part, comment le droit dans ces pays et au niveau international appréhende cette pratique. Et comment on peut bénéficier d'une protection internationale si, par exemple, soi-même, en tant que femme, on risque d'être excisé, ou bien qu'on a des filles qui risquent d'être excisées. Mmh. Ce sont des questions que nous allons aborder. Aujourd'hui, on va diagnostiquer la situation au niveau international et la semaine prochaine, revenir sur l'aspect strictement juridique et aussi dire aux personnes qui risquent d'être excisées ou qui ont des membres de la famille, des enfants, des filles qui risquent d'être excisées, comment vous pouvez bénéficier là où vous êtes, dans un autre pays, d'une protection internationale au titre du droit d'asile. Pour commencer, répondre à la première question, on peut d'abord dire ce que c'est que l'excision. Ensuite, globalement, pourquoi elle est pratiquée dans tous ces pays et carrément une photographie globale des pays où c'est pratiqué. L'excision est une mutilation génitale féminine. On l'appelle ça parfois aussi, ainsi on l'appelle aussi mutilation sexuelle féminine, qui consiste à enlever une partie du sexe de la femme. On pratique une ablation du clitoris parfois, des petites lèvres ou des grandes lèvres. Parfois c'est les trois. Comprenez un peu la dangerosité que ça peut avoir au niveau médical et même au niveau psychologique. Il y a une autre forme de mutilation sexuelle féminine, plus catégorique, qu'on appelle l'infibulation. Elle consiste à enlever les lèvres ou plutôt à les coudre pour refermer la vulve. Et donc, soit on enlève et on coud, ou bien on coud carrément pour refermer. On peut se poser la question, mais quel est l'intérêt de cette pratique? Ces mutilations sont pratiquées pendant la minorité en général et parfois même avant les 5 ans de la fille. Ce qui peut causer des problèmes. Au niveau du temps, si on remonte au temps, d'après les scientifiques, ça remonte à des milliers d'années. On a découvert des momies de femmes qui ont été excisées.
Excisées.
D'après les critères scientifiques qui ont dû voir qu'il y avait une ablation. Mmh. Qui dit momie dit au moins 2000 à 3000 à 4000 ans. 2000 ans même avant Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est une pratique qui est vieille. L'Organisation mondiale de la santé considère que toute lésion des organes sexuels féminins et toute forme d'intervention potentiellement nocive sur les organes sexuels est une mutilation sexuelle. Mais pourquoi ça se pratique donc? Pourquoi l'homme s'acharne à faire cela à nos femmes, à nos sœurs? C'est une question délicate, comme vous l'avez dit, Phil. En général, elle est dictée par des traditions, par des mœurs, par des normes coutumières, où l'honneur d'endurer la souffrance et la privation qu'elle engendre constitue une valeur sociétale. Parfois, en fait, c'est une norme sociale. Ça veut dire que c'est comme une règle, comme le droit. Parce que avant, le droit positif qu'on connaît, il y avait le droit coutumier. Sociétalement, il fallait le faire pour être considéré, pour montrer qu'on a respecté les normes et être valorisé. De sorte que la fille qui ne satisfait pas au devoir d'excision ne pourra pas être mariée dans certaines sociétés. Alors que, actuellement, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes s'ils se rendent compte que leur femme est excisée à 100%, ça veut dire qu'il y a une infibulation, qu'il y a aussi une excision globale, ça peut décourager. Avant, c'était une valeur, même une condition sine qua non pour que la femme puisse être mariée. C'était une des raisons qui expliquait que cette pratique existait. L'excision permettait aussi de contrôler le désir sexuel de la femme dans des sociétés où la femme doit rester vierge jusqu'au mariage.
Ouais.
Il y a aussi des sociétés qui la pratiquent et dans lesquelles la vie sexuelle prénuptiale et les relations adultérines sont prohibées. Ainsi, on y considère l'ablation du gland du clitoris, organe érectile et érogène, comme on le sait, et que dans certaines sociétés même, on considère qu'il faut l'enlever parce que ça ressemble au sexe de l'homme. C'était ça, juste ça l'argument principal. On pense que cette ablation aiderait la femme à résister à ses désirs sexuels et à honorer sa famille et son futur mari en restant vierge jusqu'au mariage. Dans d'autres sociétés, par contre, l'excision est tantôt perçue comme une garantie de fécondité.
D'accord.
C'était des croyances traditionnelles.
Quand
vous êtes excisé, vous avez beaucoup d'enfants.
Ouais,
quand vous avez beaucoup d'enfants dans ces sociétés, vous êtes riche parce que les enfants, c'était des bras pour les champs ou bien des bras pour la maison. C'était un raisonnement qui n'était pas du tout cartésien, mais qui pouvait se comprendre autant. Aussi, l'excision, dans d'autres sociétés, pouvait être parfois des signes, comme les balafres qu'on voit dans certaines sociétés.
Ouais.
Les balafres que les gens se font, ou bien les scarifications et autres tatouages que les gens font pour des raisons coutumières.
Ouais.
Les gens le faisaient, c'était un signe distinctif qui va identifier une ethnie, qui va identifier une coutume et la valoriser. On peut se dire, mais si on interdit l'excision pour des raisons coutumières, pourquoi ne pas interdire aussi ces balafres? C'est ces tatouages. Or, les tatouages, aujourd'hui, finalement, ce n'est plus une pratique traditionnelle, primitive. Dans les sociétés modernes, ça se pratique plus pour des raisons de fun, de design. Donc, la problématique devient beaucoup plus complexe. Elle dépasse les frontières des pays où ça se faisait avant. Dans ces sociétés, on peut retenir que l'excision n'est pas perçue comme une atteinte aux droits de la femme. Au contraire, elle participe à la construction sociale de la femme. C'est une étape nécessaire dans son émancipation et dans son éducation sociale. Elle garantit son acceptation dans le milieu social où elle vit. Et dans quel pays ça se pratique globalement?
Ouais, grande question.
Et qui peut frustrer parfois.
Qui sont les pays qui pratiquent encore l'excision?
Exactement, qui pratiquent encore l'excision. Effectivement, on peut dire que les pays où se pratique le plus l'excision sont, globalement, on pense tous, en Afrique, bien sûr.
Ouais.
Mais il y a aussi au Moyen-Orient. Et dans certains pays asiatiques comme la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, l'Inde, même le Pakistan.
Ah.
Et en Amérique du Sud aussi. Ce qui m'a même moi-même étonné. À voir qu'en Colombie, ça se pratique, ce n'est pas des Africains.
Mm.
Même au Pérou, ça se pratique aussi. Donc, parfois, le cliché nous trompe. On pense que c'est que l'Afrique stricto sensu. Ça a dépassé les frontières de l'Afrique et on ne sait pas pourquoi. En tout cas, moi, je ne sais pas pourquoi et je ne crois pas du tout aux scientifiques qui essaient d'expliquer que, ouais, peut-être qu'ils ont pris les bateaux avant, ils l'ont importé au Pérou. Je pourrais dire que c'est l'inverse.
Ça existait déjà là-bas.
Voilà, je pourrais dire que c'est l'inverse. Donc là, c'est des suppositions.
Bon, en Afrique.
Donc en Afrique, effectivement, ça se pratique beaucoup. Et il y a aussi, il faut le dire, ça se pratique en Europe, mais par des Africains en général qui l'ont importé comme pratique sociétale.
D'accord.
Il y a des pays européens, comme vous l'avez dit, par exemple, en France, en Belgique, d'autres pays où les immigrés importent ces pratiques. Parfois même, il est arrivé des contentieux où des mères exciseuses ont été sanctionnées parce qu'elles le faisaient en catimini dans des appartements ici à Paris même.
Pour elles, c'était normal.
À Seine-Saint-Denis, Paris 93.
Ouais.
Vous comprenez, avec des lames de rasoir, ça peut être traumatisant quand même.
C'est traumatisant.
Surtout ici, là-bas, on est dans un contexte sociétal où on souffre, mais on se dit que c'est normal. Ici, ce n'est pas dans la normalité, c'est une déviance. Maintenant, je dis bien maintenant, c'est une déviance. Alors, il faut signaler toutefois qu'avant, pourquoi je dis maintenant, aux États-Unis, comme en Europe, toute l'Europe de l'Ouest, ça se pratiquait jusqu'aux années 50 ou 60. Pour quel motif? Des motifs très bizarres. Et même, ils pensaient que l'excision aidait à guérir certaines maladies comme l'hystérie, comme les troubles mentaux ou l'épilepsie. C'est assez délicat. Ils pensaient pire encore que ça aidait à lutter contre les comportements et des pratiques sexuelles qui étaient rétrogrades, autant l'homosexualité. Pour éviter que la fille soit homosexuelle, ils faisaient l'excision en Europe. Ça remonte à 60 ans. On coupait le clitoris pensant que c'est un organe qui peut l'inciter à solliciter une autre femme pour lui donner du plaisir. Donc c'est en Europe. Les gens qui critiquent cette pratique dans d'autres pays oublient que ça se faisait ici aussi. Ce n'est pas une pratique religieuse africaine, ou bien islamique, ou bouddhiste, ou bien animiste. Mais c'était une pratique humaine qui remonte de très longtemps et qui a été pratiquée ici, même en Europe. Donc ça, c'est bien de le souligner. Maintenant, au niveau des taux, si on se réfère aux études qui ont été faites par des organismes internationaux crédibles comme l'UNESCO ou l'UNICEF. Il n'y a que ça. Après, on peut se poser la question, quels sont les critères qui leur ont permis de savoir quel est le pourcentage? Ça, c'est une question que je vais poser à Phil, peut-être, ou bien aux auditeurs. En tout cas, les pays qui ont été identifiés comme pratiquant davantage l'excision, par ordre d'importance, c'est d'abord la Somalie.
La Somalie.
98% de taux d'excision.
La Somalie est en tête.
La Somalie. Ensuite, la Guinée. Guinée-Conakry.
Guinée-Conakry.
96%. Djibouti. 93%. L'Égypte. 91%. L'Érythrée, le Mali, nos voisins maliens, 89%. Ouais. La Sierra Leone, le Soudan, ainsi de suite. Ça, ce sont les pays. Et même le Burkina Faso et la Gambie.
Et le Gabon ne fait pas partie. Hein.
Le Gabon, on ne les voit pas. En tout cas, s'il peut y avoir quelques cas délicats, mais le Gabon n'a pas été identifié.
C'est ce qui
du
m'intéressait
tout.
Au plus haut.
Donc, si vous ne voulez pas une femme excisée, il faut aller au Gabon. Mais ce n'est pas forcément un critère pour aimer une femme. Ouais. Donc, voilà, je ne pense pas que c'est un critère. Mais néanmoins, c'est des pratiques qui existent. Si on doit lutter contre ces pratiques, voilà les pays qu'il faut cibler davantage. D'autres pays le font dans une moindre mesure, comme le Tchad, la Côte d'Ivoire, 36%, le Kenya, le Nigeria et le Sénégal, 26%, surtout le sud du Sénégal. Et il y a d'autres pays comme, par exemple, la Centrafrique et le Bénin, le Cameroun, qui le font pratiquement pas, 1% au Cameroun. Donc voilà, globalement, quelle est la photographie donc, de l'excision de manière globale donc, dans ces pays-là.
Alors, pourquoi l'excision est de plus en plus interdite et sanctionnée alors qu'elle fait partie des mœurs de plusieurs pays?
Effectivement, ça fait partie des mœurs de plusieurs pays parce que ça, c'est ce qu'on a identifié. Mais on peut émettre un doute même sur la crédibilité de ce pourcentage. Parce que quel est le critère objectif qui a permis de dire que ça se fait à 98% au Somalie et que ça se fait à 1% au Cameroun? D'après vous, Phil, est-ce qu'ils ont, sur un échantillon de femmes, pour leur demander « Madame, on va vérifier si vous êtes excisée ». Non, c'est juste des études scientifiques, des sociologues qui partent de présomptions, qui partent de spécimens, de déductions, d'inductions. Donc, peut-être, probablement, il y a fortement beaucoup d'erreurs. Néanmoins, on sait que globalement, il y a des pays qui le font et qui le réclament. Ils se basent sur ça pour donner donc, ces indications. Selon les organisations comme l'UNICEF, plus de 200 millions de femmes sont excisées. Ça veut dire que ce n'est pas un épiphénomène.
200 millions de femmes.
200 millions de
à
femmes.
À travers le monde.
À travers le monde. Ça veut dire, effectivement, il y en a beaucoup. Et pourquoi donc, la question pertinente que vous posez, l'interdire? Pourquoi? Ces détracteurs estiment que l'excision sert à contrôler la sexualité des filles et à avoir une emprise sur leur vie personnelle. Que c'est une discrimination et une injustice contre les femmes. Une atteinte à leur dignité et à leur intégrité physique et mentale. Des raisons médicales sont aussi brandies pour fustiger l'excision. Cet argument est devenu maintenant fragile parce qu'il y en a qui disent « Oui, si on peut exciser maintenant les femmes dans les hôpitaux sans risque pour leur santé ni douleur, on devrait alors accepter l'excision. » Mais cet argument a du mal à passer. La tendance à la médicalisation qui se pratique par exemple en Égypte où c'est une pratique répandue, mais les gens le font de manière maintenant entre guillemets civilisée, sous anesthésie, sans douleur, ne satisfait pas. Parce qu'on se dit que même s'il n'y a pas de douleur physique, il y a toujours la douleur mentale, psychologique et les effets futurs sur le bien-être et l'épanouissement de la femme. Autre argument, pourquoi on le fait? Alors, pourquoi on l'interdit alors que c'est fait un peu partout? On considère que c'est une privation de plaisir. Or, argument que d'autres personnes qui défendent cette pratique brandissent, ils disent que mais les attentes et les pratiques sexuelles sont différentes selon les pays et selon les mœurs.
Exact.
Tandis qu'en Europe, l'organe sexuel est largement perçu comme un vecteur de plaisir, dans d'autres pays, il n'est perçu que comme un organe productif. Ce n'est que pour faire des enfants. Donc, ce n'est pas la peine si on vous excise. Ça ne constitue pas un obstacle pour la reproduction. Et là, c'est une vraie problématique. Et de manière générale, les mutilations sexuelles féminines sont considérées comme des coutumes et des mœurs rétrogrades et néfastes. Attentatoires à la dignité et au droit à l'intégrité physique et mentale. À la sexualité, au droit à la santé, spécifiquement à la santé reproductive, et au droit personnel des filles et des femmes qui la subissent. Elles sont perçues comme une discrimination liée au sexe, une atteinte au droit d'atteindre son potentiel humain et au droit à la considération de son opinion. J'ai le droit de décider si je dois être excisé ou pas, alors que c'est la société qui l'impose. Là, c'est un argument qui est brandi. Mais moi, je leur ai dit.
Mais cela est parfois et très souvent imposé à des jeunes filles de 7 à 8 ans ou 12 ans.
Effectivement, qui n'ont pas encore le choix de décider. Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses qu'on impose à l'enfant. C'est les parents qui ont l'autorité parentale. La circoncision, est-ce que l'homme décide, les garçons?
Non.
Donc cet argument ne peut pas prospérer. La religion, parfois, on nous l'impose jusqu'à un certain âge. En général, on ne change pas. D'ailleurs, je comprends même à des c'est les gens qui se plaignent, qui disent que ouais, ma religion est meilleure. Non, c'est pas votre religion. On vous l'a imposé en général. Mmh. D'où l'idée de tolérance entre guillemets pour des choix qu'on nous a imposés parce qu'on les a eus depuis enfant. Et donc aussi, on peut comprendre cela, ne pas juger les femmes qui ont été excisées parce qu'en général, elles ne l'ont pas du tout décidé. Mmh. Au contraire, pour moi, si ça ne les plaît pas, on doit les considérer comme des victimes de ces pratiques-là. On estime que l'excision a de graves conséquences sur la santé physique, comme on l'a dit. Ouais. Elle engendre des douleurs intenses. La vulve, les lèvres et les clitoris sont des parties du corps qui sont très énervées. Ça veut dire beaucoup de nerfs sensitifs, dont la cicatrisation reste douloureuse après ablation, avec une sensibilité irritante des terminaisons nerveuses. Il y a aussi un risque de saignement, d'hémorragie lors des rapports ouais. sexuels. J'ai des amis que j'ai connus qui m'ont parlé de ça.
Et de mort aussi.
Et de mort. Qui avaient du mal, qui étaient mariés et qui ont même divorcé à cause de ça et qui n'osaient pas l'avouer à leur époux qu'en faisant l'amour, elles souffrent intensément parce qu'elles sont excisées et qu'une autre personne qui a fait l'objet d'une infibulation assez délicate et qui avait du mal à subir cela parce qu'il y avait des saignements, des hémorragies et comme vous dites, parfois ça peut entraîner mort d'homme. D'où l'intérêt quand même de réfléchir sur cette pratique. Faut-il continuer de la faire ? Une question délicate.
Voilà, on va d'ailleurs solliciter à nos chers auditeurs au 01 55 07 58 00 précédé du 33 si vous nous appelez de l'étranger. Venez réagir donc sur le dossier du droit et nous, l'excision, pratique criminelle ou coutume légitime. Donc n'hésitez surtout pas à nous appeler pour réagir sur ce sujet. Alors, question droit, certaines femmes utilisent justement pour la régularisation de leur situation, cette situation d'excision.
Effectivement, dans certains pays, par exemple, comme en Europe, où on considère maintenant que c'est une pratique vraiment barbare et que des lois sont très sévères. Mmh. Je donne l'exemple des pays comme la Belgique ou la France où c'est considéré comme un crime. Donc, d'où la question pratique criminelle ou pratique légitime. Dans d'autres pays, c'est légitime. Même si ces pays, avec l'influence de la communauté internationale, ont voté des lois pour dire que ce n'est pas bon, mais ces pays ferment les yeux. Parce que si 98% de la population féminine est concernée par l'excision alors qu'il y a une loi à côté, ça veut dire que c'est une loi qui est désuète. Mmh. C'est une loi qui est mort-née, qui ne sert à rien du tout. Et donc, dans ces pays où on considère que l'excision est une menace pour la femme, effectivement, il y a des lois qui favorise la protection internationale de la femme. Je pense qu'il y a même lieu d'y revenir en détail, carrément pour donner à ces personnes qui peuvent être concernées quels sont les cadres juridiques qui relèvent des dispositions internationales, quelles sont les conventions internationales que vous pouvez invoquer dans votre pays ou à l'étranger pour bénéficier d'une protection internationale, à la fois physiquement comme même pour un titre de séjour. On donnera l'exemple des pays comme les pays européens. Il y a des directives européennes, il y a au niveau de l'ONU des règles qui ont été adoptées, au niveau du FUNIAP, au niveau de l'UNICEF, il y a des directives et des programmes qui sont mis en place pour accompagner ces personnes qui sont victimes de ces souffrances-là. D'autant plus qu'on considère que ça peut entraîner des conséquences très graves sur la productivité, ça veut dire la stérilité. Aussi, une vulnérabilité aux maladies sexuellement transmissibles. Par exemple, ça peut favoriser, d'après l'UNICEF, l'UNESCO, le VIH. Le VIH qui peut donner le sida. Donc, effectivement, avec un seul instrument non stérilisé, couteau, lame ou bien même rasoir, des ciseaux, utilisés dans de mauvaises conditions d'hygiène, pour plusieurs femmes en même temps, effectivement, on peut comprendre que les risques pour la santé sont là. L'excision peut ainsi engendrer aussi des complications pendant l'accouchement. L'infibulation, elle, qui me traumatise, moi-même qui suis garçon, ça me traumatise de penser à ça, même de dire le mot, ça me traumatise. Et quand je le dis, c'est vraiment vrai, ça, je suis traumatisé à ça. Je peux comprendre les femmes qui sont victimes de ça. Elles doivent être mille fois plus traumatisées que exact. Moi. Cette infibulation cause des problèmes urinaires et menstruels. Des femmes qui ont perdu carrément leur cycle de règles, ça c'est délicat pour la reproduction, alors qu'elles ont le droit d'avoir des enfants. Et donc à cause de l'obstruction qui est causée de l'organe de reproduction et de l'urètre. Ces pratiques peuvent créer effectivement un traumatisme, comme on l'a dit, et occasionner surtout la frigidité. Il y a des femmes qui ne sont pas malades, mais qui sont frigides, qui souffrent de vaginisme, parce qu'elles ont peur. Et donc là, c'est des questions délicates qui font peur, je sens même que Phil lui-même, à ce moment-là, est très dans l'émotion. Donc c'est des questions très délicates. Par contre, quoique délicat, on peut se poser des questions, parce qu'il y a beaucoup d'acharnement des pays européens, qui parfois n'essaient pas de voir les raisons sociétales, qui incitent nos autorités à prendre des lois. Les lois sont votées et on voit les taux. Ça veut dire que les lois ne sont pas efficaces. Ne faudrait-il pas d'autres raisons sociétales et sociologiques pour essayer de trouver une solution ? On pose la question aux auditeurs. Et dernière question avant de leur donner aussi la parole. Une question aux auditeurs. Le piercing des lèvres qui se pratique dans les pays modernes et même de l'organe sexuel. J'ai vu aux États-Unis que c'est une pratique maintenant très démocratisée.
Ouais.
qui s'est fait sur le clitoris de la femme, qui est devenu une tendance en Europe et en Amérique.
Le piercing ?
Le piercing. Oui, les gens le font, le piercing du clitoris, c'est une pratique banalisée maintenant. Mmh. Est-ce que ce piercing ne doit pas être considéré comme une mutilation sexuelle ?
D'accord. Allez, nous allons partir à présent au 0155 07 58 00. Votre point de vue nous intéresse. On va commencer par cet auditeur. Allô, allô, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour, c'est monsieur ?
Vali.
Monsieur Vali.
Oui.
Nous vous écoutons, monsieur Vali.
Bonjour, monsieur Vali.
Bonjour. Ben, écoutez... Phil a fait un bon préambule, hein. C'est le préambule là qui est important. Toute autre discussion, tout autre débat que vous posez n'a aucun sens. Parce que dès lors qu'on parle de coutume, ça ne se discute pas sur un plateau. Première chose. Voilà, donc si on considère que l'excision est une coutume, ça n'a pas à se discuter sur un plateau. De plus, je pense que les Européens qui prennent des lois aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. Ben, voilà des personnes qui ont fait 400-500 ans en Afrique. Ils n'ont jamais condamné ces actes-là, soi-disant. C'est quand ils rentrent chez eux qu'ils découvrent, ah oui, mais vraiment, tel porte le voile, tel fait ceci, tel fait cela. Non, on est fatigué de ça. Vraiment, ce n'est pas un débat. On perd du temps. Hein. Vous avez vos rites. Les rites sont secrets en Afrique. On n'a pas à les exposer sur les plateaux. Et Phil, il sait de quoi je parle. Hein. Je suis de l'Afrique centrale comme lui.
Ouais.
Les rites ne s'exposent pas. Il le sait. Donc, vraiment, pour moi, ce n'est pas un débat.
Voilà.
Très bien. Restez à l'écoute, on va vous répondre. Hein.
Merci beaucoup, monsieur Vali.
Monsieur Vali a dit quelque chose de très intéressant, en fait. Ouais. Il a soulevé une question qui m'intéresse. Ça veut dire que les Européens, pourquoi ils ont attendu tout ce temps-là pour dire que ce n'est plus bon ? Ça, c'est une question pertinente.
Très pertinente, oui.
Ce qui n'est pas pertinent du tout dans ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas un débat alors qu'il est en train de débattre de ça. Ça, c'est insensé. Parce qu'il a dit son point de vue. Ça veut dire qu'il interdit aux autres d'avoir un point de vue. C'est ça, l'absence de démocratie qui marque parfois les Africains. Et ça, c'est très déplorable. Il a dit son point de vue pour lui, ce sont des coutumes. Moi, je pense à ça. Mais est-ce que ça veut dire que parce que c'est des coutumes, on ne doit pas protéger les femmes qui en souffrent ou bien que la femme elle-même n'a pas le droit de dire ça ne m'intéresse pas ?
D'ailleurs, non, on aimerait avoir le point de vue de la gente féminine.
Oui, effectivement, mais avant ça, il faut répondre à cette personne parce qu'elle a posé quand même malgré tout ça une question très pertinente. Hein. C'est juste que le fait de dire que ce n'est pas un débat, on ne parle pas de coutume. Les gens en parlent. Est-ce qu'il va interdire à l'UNESCO d'en parler, de faire des débats ? Pendant 20 ans, ils ont fait des investigations dans votre pays d'Afrique centrale et vous n'avez pas eu l'occasion de leur dire non. Peut-être que vous n'étiez même pas au courant. Ils ont fait des rapports que peut-être vous ignorez. Ils ont recruté des femmes là-bas pour faire ces investigations, des ONG sur place qui y travaillent jusqu'au jour où on en parle. Et même des personnes que j'ai aidées à avoir une ONG au Sénégal qui s'occupe que de ça et dans d'autres pays africains. Donc c'est un vrai débat qui se pose. Alors, vous n'êtes pas une femme, vous n'êtes pas excisé.
Je peux comprendre un peu le point de vue de Vali Aliou. En Afrique centrale, en général, ce sont parfois des sociétés secrètes. Ce sont des pratiques qui ne sont pas exposées au sud de tout le monde.
Ah oui, mais nous, on ne demande pas aux gens de venir nous montrer l'excision. Au contraire, ça me ferait peur, je quitterais ce plateau. On est en train de parler de la pratique de ne pas montrer des femmes excisées ici. Il s'est trompé de débat. Ouais. La question est de savoir, on réfléchit sur l'enjeu que cela peut avoir au niveau social et l'enjeu que cela peut avoir au niveau juridique. Pour les Européens, je suis d'accord par contre avec lui, parce que pendant tout ce temps, ils ne l'ont pas évoqué, ils l'ont vu, ils l'ont toléré, parce qu'ils le pratiquaient jusqu'en 1950. C'est pour ça que ça ne les gênait pas. Maintenant, c'est devenu une tendance des ONG. Sur ce point, je le rejoins.
Nous allons prendre cet auditeur. Allô, bonjour.
Allô ?
Oui, bonjour, c'est monsieur.
Oui, bonjour, monsieur Kassim.
Nous vous écoutons, monsieur Kassim.
Ouais, d'abord, je voudrais vous féliciter parce que le travail que fait monsieur Aluntal n'est pas facile.
Ouais.
Merci.
Nous, en tant qu'auditeurs, franchement, ça nous apprend beaucoup de choses. Par contre, je suis surpris par la réaction de celui qui a précédé. Quand quelque chose est mal, on n'a pas besoin de cacher cette chose-là.
Sincèrement.
Voilà. On ne dirait pas, par exemple, que l'esclavage... Excusez-moi, je vais revenir. Je prends rapidement l'exemple de l'esclavage. L'esclavage a été d'abord pratiqué par les régions arabo-persiques. Mais... on ne va pas dire parce que ça a été pratiqué pendant 400 ans, donc on n'en parle pas. Si, on en parle. Si les autres sont occupés par le passé, nous, les hommes d'aujourd'hui, on ne va pas commettre les mêmes erreurs que ceux du passé. Maintenant, je reviens sur la protection internationale dont parlait M. Aluntal tout à l'heure. Je suis très, très ému parce que j'ai un cas, quand je dis que j'ai un cas, c'est une cousine qui est arrivée de Côte d'Ivoire et à qui on a demandé de faire un certificat médical. Elle a été excisée quand elle avait 3 ans et malheureusement, quand elle a fait sa première demande, demande d'asile, comme on dit, elle n'avait pas fait d'abord le certificat. Dans sa demande, elle a précisé qu'elle a été excisée très jeune et maintenant, elle a sa fille de 3 ans qui est en danger. Le mari a voulu lui imposer cette excision, mais elle a su cacher sa fille dans un pays limitrophe et elle, aujourd'hui, elle se retrouve ici en France. Maintenant, ma question est directe. Est-ce que le fait que la mère qui est aujourd'hui sur le territoire soit excisée, est-ce que ce fait-là peut lui donner droit à la protection, lui permettre d'avoir ses papiers?
Très bien. Questions très pertinentes. Et merci d'abord pour l'introduction parce que le premier auditeur m'a inquiété carrément que les auditeurs doivent savoir qu'on ne peut pas
surfer sur le tabou. Mais nous respectons son point de vue.
Mais on respecte son point de vue. Mais il ne faut pas dire que. Non, interdire le débat, ça veut dire ne parlez pas.
Exactement.
Voilà. C'est pas un point de vue,
c'est
ça.
C'est son point de vue à lui.
Mais non, ça veut dire on ferme la radio. C'est son point de vue, on se lève, on dit au revoir aux auditeurs. Ça, c'est pas un point de vue. Le point de vue, c'est de dire que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais ne parlez pas. Moi je parle. Ne parlez pas, ça, c'est insensé. Ça, c'est insensé. Et puis, comme toutes les autres questions, effectivement, quelle que soit la sensibilité, il faut qu'on ait le courage d'affronter la réalité, de trouver une solution. Si on n'affronte pas les problèmes, on ne va pas avoir des solutions. Donc ça, on efface ça, on met à côté. Maintenant, je sais que Phil le défend, il aime bien Phil, donc, mais ça, ce n'est pas le problème.
Non.
On entre dans le fond du sujet. Monsieur Kassim, pour revenir à vous et tous les auditeurs qui nous écoutent, parce qu'effectivement, il y a des lois en Europe qui protègent les personnes qui sont victimes de ces pratiques-là et qui leur permettent d'avoir la protection internationale. D'abord, la Convention de Genève de 1951 le permet de manière globale. Si vous faites l'objet d'une excision ou que votre enfant fait l'objet d'un risque d'excision, c'est un risque de traitement inhumain et dégradant. C'est la relève de cette convention. En Europe, ça relève aussi de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette personne peut bénéficier d'une protection à double titre, soit en tant que demandeur d'asile, soit en tant que demandeur d'une régularisation de sa situation, en évoquant le fait qu'elle risque ces pratiques-là. La question que vous posez est à savoir maintenant par rapport au certificat médical. Le certificat médical, c'est une présomption. Il ne peut pas être une condition sine qua non pour qu'on puisse lui donner le statut de réfugié. Ça veut dire finalement, c'est comme si on allait vérifier carrément. Il y a des personnes que j'ai accompagnées, à qui j'ai fait la demande, qui l'ont eu. On a utilisé des indices concordants. Le fait que dans son pays, la Guinée, comme je l'ai dit tout à l'heure, le taux de prévalence dépasse les 90%, c'est un indice.
Ah oui,
le fait
c'est,
que
c'est
dans
énorme.
Oui, son village, pratiquement toutes les femmes sont excisées, mais est-ce qu'on va lui demander un certificat médical? Il ne s'agit pas d'être excisée tout simplement. Le risque d'être excisée suffit. Et cette femme avait une fille ici, on ne peut pas l'envoyer dans un pays où la fille risquait d'être excisée. C'est un argument suffisant et effectivement, on n'a pas besoin sur cet angle-là d'avoir un certificat médical. S'il l'offre, l'Office français, par exemple, pour la France, de protection des réfugiés, des apatrides, refuser sa demande avec un recours bien circonstancié par quelqu'un qui connaît bien la teneur du droit des étrangers, elle aura gain de cause. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez touché une autre population, les homosexuels. D'autres vont dire non, on ne parle pas des homosexuels, c'est tabou. On parle de l'homosexualité même en Afrique, si bien qu'il y a des restrictions dans certains pays. Mais en Europe, le seul fait de venir d'un pays où l'homosexualité est une pratique prohibée peut vous donner un titre de séjour. On n'a pas besoin d'être homosexuel. C'est une directive européenne qui dit carrément que quand on vient d'un pays où il y a une loi positive, ça veut dire une loi qui est pratiquée, appliquée, comme le Sénégal où l'article L319 du Code pénal interdit les pratiques contre nature, tout Sénégalais qui a un bon dossier de demande d'asile peut avoir l'asile politique.
Ouais.
Il en est de même de l'excision. Donc, je vous le confirme, cette femme doit avoir la protection au titre de l'asile et vous pouvez nous contacter pour avoir beaucoup plus d'informations à ce niveau.
Voilà, je donne le numéro de téléphone d'Aliutal, 06 16 05 45 51. Vous envoyez un SMS et l'association s'occupera de vous. Je reprends, 06 16 05 45 51. Merci beaucoup. On va enchaîner avec, vous êtes nombreux à nous appeler. On va prendre un autre auditeur, plus que 8 minutes à passer avec vous. Allô, allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour. Non,
oui,
ce n'est
bonjour,
pas Vali.
C'est Marcus.
Marcus, bienvenue Marcus.
Bonjour Marcus.
Bonjour les auditeurs et bonjour Maître Tarin.
Allez-y bonjour. Marcus, nous vous écoutons rapidement.
Et l'analyse de Maître Tarin est très explicite dans beaucoup de domaines. C'est une question qui met en évidence l'humanité. Et en fin de compte, vu le désaccord qu'on y a eu, bien que Vali a posé une question, mais je pense que dans cette question, il y a beaucoup de réponses. Parce que ce qui se faisait dans l'Afrique ancienne avait une valeur sociétale. Alors qu'aujourd'hui, dans cette société d'où nous vivons, nous voyons la décadence de cette humanité. La façon dont se comportent les femmes, aussi bien les hommes, dans un désordre qui n'est pas productif à l'humanité. Je pense que dans tout ce débat, mais total à remonter aux origines même de l'humanité. Et quelle était la considération d'une femme? Et que je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses à revoir, mais dans cette société qui se dit moderne, civilisatrice, je pense que nous sommes arrivés à un moment de réflexion où l'homme noir doit savoir se situer dans ce monde qui est en bouleversement. Je pense que nous avons tous nos valeurs, avons tous nos cultures. Il y a un auditeur qui a parlé de l'histoire des 400 ans d'esclavage, mais aujourd'hui, je vais accentuer la réflexion que l'histoire des religions telles que dans la chrétienté, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on est en train de visionner des vidéos qui remontent à l'origine même de la Vierge Marie et de ce qui était l'enfant Jésus. Donc c'est le culte ancestral africain et que ça circule sur les vidéos, sur le YouTube, auquel le pape François Ier et l'ancien pape sont en adoration du culte Jésus. Je pense qu'aujourd'hui, l'homme noir, en respectant toutes les êtres qui vivent sur cette terre, a sa dignité. Et je pense, Maître Cotal, le travail que vous êtes en train de faire est fondamental. Ça permet à tout être humain de se situer dans ce monde, quel que soit le lieu où il est.
Merci beaucoup, Marcus.
Juste un mot pour Marcus Phil, vraiment, comme on dit, l'intérêt de cette émission, c'est qu'aussi on apprend des auditeurs. Et son analyse est hyper pertinente. Comme on dit, on n'est pas obligé forcément d'être sur la même longueur d'onde. Mais quand c'est pertinent, on apprend. Et de là, j'apprends une bonne analyse et vraiment félicitations, Marcus. C'est ça l'intérêt de ce que nous faisons du débat. Une personne a le monopole de la vérité, mais on doit échanger. Et c'est dans l'échange qu'on gagne des informations. Et cette analyse qu'elle vient de faire, elle est très pertinente et je pense que ça va servir aux auditeurs. En tout cas, moi, ça m'a servi. Merci, Marcus.
Nous allons prendre un autre auditeur ou auditrice. Allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, c'est monsieur.
Monsieur Roland.
Nous vous écoutons, monsieur Roland.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour, monsieur Roland.
Bonjour, je me suis arrêté parce que quand j'ai entendu le raisonnement de monsieur Vali, c'est quoi Vali ou je ne sais plus.
Monsieur Vali.
Monsieur Vali, voilà, je voudrais dire que la libre pensée ne doit pas nous emmener à nous perdre dans ce que nous devons dire. Le problème que vous. Le thème d'aujourd'hui est très primordial. C'est tout simplement un acte. Comme l'a dit l'auditeur d'avant, qui avait sa raison d'être avant.
Oui.
Et maintenant, le monde évolue, les mentalités évoluent. Ce n'est pas parce que nous sommes africains que nous devons garder des choses qui n'ont plus lieu d'être.
Exact.
Voilà. Ceci ne doit plus se faire, tout simplement. Arrêtons avec les histoires de coutumes. Quand c'est pas bon, faut dire que c'est pas bon. Donc le travail que vous faites, monsieur Aloudal, vous mettez ça sur Africa Radio avec
Phil.
Je vous remercie vraiment parce que c'est important que nos esprits s'ouvrent et que nous comprenons qu'à un moment donné, il faut avancer. Le coutume, nous restons africains, mais à un moment donné, il faut évoluer mentalement aussi, c'est important. Voilà.
Parfaitement d'accord avec vous et je vous remercie parce que c'est ce qu'on cherche en fait le débat. Sinon, on n'a pas de radio, pas de télé, ni rien du tout. D'autres vont en parler, mais d'autres en parlent même négativement en nous stigmatisant. Pourquoi on doit s'interdire nous-mêmes d'en parler avec nos réalités? Nous connaissons nos réalités mieux que ces Européens, ces Américains qui en parlent. Mais pourquoi nous dire non? En avance, il n'y a rien à voir, c'est une pratique coutumière. Au Gabon, dans le village de Phil, c'est secret parce qu'on en parle. Non, mais il faut qu'on arrête quand même ça, Phil, je sais bien.
Non, je
suis en train de taguer des Phil.
C'est la liberté de parole.
Voilà. Il faut comprendre. À partir du moment où on a une liberté de parole, il ne faut pas interdire vraiment certains débats. Ça, c'est vraiment délicat. De dire qu'on ne parle pas de ça, ça, c'est assez délicat. C'est très délicat.
Alors que là,
on est en train de gagner des informations très pertinentes sur les interventions de ces auditeurs. Et d'ailleurs, ça m'inspire, dans le cadre de notre association, on va organiser un débat ici à Paris pour parler de ça, sans passion du tout, avec des femmes. Je vais vous inviter. L'objectif, c'est de réfléchir, d'oser maintenant réfléchir.
D'ailleurs, on aurait aimé entendre quelques femmes sur la question.
Exactement.
Merci beaucoup.
On va l'organiser.
On viendra.
Voilà.
Avec
merci
plaisir.
Merci beaucoup. On va enchaîner. Plus que trois petites minutes. Allô, bonjour.
Oui, allô.
Ah, enfin.
Alléluia.
Alléluia. Nous avons une femme. Bonjour, madame.
Oui, bonjour, c'est Gaëlle.
Gaëlle, nous vous écoutons, bienvenue.
Bonjour Gaëlle.
Oui, merci, en fait, j'appelle parce que j'ai des commentaires à dire, par exemple, j'avais tout ce que j'avais à dire. Au fait, je pense que la coutume, on dit que c'est une coutume, c'est parce qu'on est africain, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de coutumes en Afrique qui sont dépassées. Je pense que même quand on veut garder nos cultures, on peut les garder tout en essayant de penser au bien-être. Mmh. Je prends l'exemple de toutes les coutumes, par exemple, où on dit d'envoyer les femmes en mariage à 10 ans ou à 9 ans. Enfin, ça parce qu'une coutume convient aux hommes et pas aux femmes en Afrique. Il y a toujours personne pour défendre la cause. Mmh. Et quand c'est une coutume qui convient toujours aux hommes, ça sera toujours les hommes qui vont se sentir bien et jamais ils vont vouloir changer. Mmh. Moi, je connais une amie, par exemple, qui a été qui a subi ça. Et elle a son copain, mais elle a peur parce qu'elle ne sait pas si le jour où, parce qu'ils n'ont encore rien, elle ne sait pas si le jour où ils vont. Voilà, s'il va l'apprécier, parce que du coup, elle se sent frustrée. Mmh. Donc, ça frustre sa vie. Déjà, elle a même pas l'estime de soi. Mmh. Et donc, même quand elle voit un bébé, c'est sur le bébé qu'elle se rend compte.
Il y a un gros travail à faire. Hein.
Elle n'a même pas connu le sien. Mmh. Donc, je trouve que c'est vraiment dégradant pour la femme et abusée. Si les Américains passent le piercing sur leur clitoris, ils sont adultes, matures, ils veulent le faire, ils le font. Mmh. Donc, si une fille à 20 ans, 30 ans décide de se faire exciser, tant mieux, elle peut le faire, ça va plaire à son mari, c'est entre eux. Mmh. Mais c'est pas normal de faire subir ça à une fille, à un bébé, et demain après elle aura honte même devant son mari, et ça c'est dégradant. Et donc je crois qu'en Afrique, on a beaucoup de coutumes qui sont bien, parce que ça nous permet de vivre en harmonie avec le sens de la famille et tout, mais on a beaucoup de coutumes qui doivent évoluer, surtout dans le sens de la femme, parce que la femme elle est vraiment...
Merci Gaëlle.
C'est mon point de vue. Hein.
Merci Gaëlle. C'est un point de vue très pertinent aussi.
Gaëlle, oui, c'est
que je partage parce qu'elle a donné une réponse aussi
je
par rapport à la question que j'avais posée, à savoir est-ce que les piercings que les Américaines par exemple pratiquent ou bien maintenant la tendance en Europe, on doit l'interdire. Elle a donné une réponse pertinente. Ce sont des adultes. Mm-hmm. À partir du moment où on est adulte, on doit pouvoir le faire. Si une femme africaine à 25 ans ou à 35 ans dit je veux être excisée, est-ce qu'on va lui interdire? Non. Donc c'est une réponse qui est très perspicace. Et donc je pense effectivement, comme elle l'a dit aussi, si on essaie d'accepter ça ou bien de dire qu'il n'y a pas de débat, il ne devrait pas y avoir de débat sur la pédophilie. Sur la pédophilie. Des gens qui font en train de détourner des femmes, des enfants de 8 ans, hein, qui sont en train de les déflorer, il faut qu'on parle de ça. C'est des réalités qui sont barbares qu'il faut. Donc pour moi, personnellement, c'est mon point de vue. Je ne parle pas de l'excision. Je parle par exemple des viols et de la pédophilie qu'il faut interdire et parler de ça. De la même manière, je parle maintenant avec plus de retenue parce que je suis dans une émission et moi, je ne dis pas mon point de vue. Je fais juste un diagnostic et après, on parlera du regard du droit ici. Et après, il y aura aussi plus tard, comme j'ai dit, on va faire un débat à Paris. Un café, un after work où on parlait de ça sans passion.
Exactement.
Et pour produire.
Merci beaucoup, Aliou Tal.
Merci, Phil.
Le droit est nous, dans le plus de la grande matinale sur Africa Radio.